Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bueno sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic, que va a golpear.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actus, second épisode dans cette 8e journée de Liga après avoir traité le match entre Séville et l'Atlético. On va parler maintenant d'une autre belle affiche dans cette 8e journée, c'est le match entre la Real Sociedad et puis Villarreal. C'est pareil, un choc on va dire pour l'Europe, un choc pour le haut tableau aussi. Deux équipes qui sont évidemment très intéressantes à suivre, sur lesquelles il y a énormément de choses à dire. Et pour retrouver pour la Real Sociedad, on retrouve Lucas plutôt qu'il est avec nous. Salut Lucas, comment tu vas ?
Salut Ruben, très content là, de venir parler de ce match alléchant sur Ligue Actu, très content de revenir pour parler de mon club et parler avec les connaisseurs du football.
Exactement, et puis d'ailleurs en parlant de la Real, on passe le bonjour en même temps à Gurven qui était un peu malade et on lui souhaite aussi un beau rétablissement. Et puis donc pour parler de Villarreal, on retrouve évidemment Cyril qui était là récemment aussi, qu'on a pu entendre dans le Space il y a quelques jours aussi. Salut Cyril, comment tu vas ?
Bien, bien, bien. Le chat noir du sous-marin jaune qui est de retour. Parce que les dernières fois, ça, j'ai pas trop porté bonheur, ouais. Notamment pour le dernier podcast qu'on avait fait l'année dernière sur la Real Sociedad. Donc, mais voilà, sinon ça va, super.
Et ben c'est parfait. Et puis pour compléter l'équipe, on est évidemment avec Sacha qui est là pour nous accompagner. Salut Sacha.
Écoute, toujours là, ça fait plaisir, on va très bien. Et puis oui, c'est une réunion de chat noir aussi, on le sait. Donc, c'est un podcast pour les superstitieux, faites attention quand même.
Et ouais, c'est un match qui va être intéressant aussi. Et puis c'est vrai que de notre côté, nous, on n'est pas forcément toujours les plus à l'aise, surtout sur la catégorie pronostic qui sera peut-être assez drôle à voir en fin de rencontre. On va en parler au cours de ce podcast. Bon, on va commencer d'abord à parler un peu de la Real Sociedad en commençant par l'Europe, parce que c'est l'actualité, on va dire, un peu plus récente de cette semaine, parce que la Real Sociedad a de nouveau gagné et a enchaîné un troisième succès en Europa League avec une victoire contre le Sheriff Tiraspol après avoir battu l'Omonia Nicosie et puis Manchester United. Toi, Lucas, de ton côté, comment tu jugeras un peu ce début, on va dire, de phase de poule en Europa League? Est-ce que tu t'attendais personnellement à gagner trois victoires en trois matchs, surtout dans un groupe quand même, voilà, où il y avait Manchester United et il y a quand même une victoire du côté de Old Trafford. Donc voilà, est-ce que toi, tu trouves ça plutôt surprenant? Est-ce qu'au contraire, tu penses que ça confirme certaines choses? Comment tu vois ce début, on va dire, de parcours en Europa?
Ben, je vais te dire que je m'attendais à faire un 9 sur 9. Je peux pas, parce que bon, voilà, on avait le match le plus compliqué de cette phase de poule en allant jouer à Old Trafford, à Manchester, et gagner là-bas, bon, on ne s'y attendait pas du tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. On a réussi à aller chercher une belle victoire grâce à Brais Mendes. Donc c'était le plus dur qui était fait. Et après, il fallait continuer, parce que on sait que si on gagne contre Manchester, mais qu'on se tolle face à Nicosie ou le Sheriff Tiraspol, c'est compliqué. Mais non, la Real a très bien continué en Europe avec une victoire peu convaincante contre l'Omonia Nicosie 2-1 à Anoeta. Mais bon, le score aurait pu être plus lourd, même si la victoire est là. Et ensuite, il y a eu ce match de jeudi soir contre le Sheriff Tiraspol, donc pas tout à fait chez eux, mais bon, dans leur pays. Et c'était une prestation plutôt aboutie, à une victoire 2-0, qui aurait pu être facilement de 3-0 quand on voit le raté de Merino, mais avec, pour une fois, enfin, une défense qui a été plutôt rassurante quand on voit le match qu'il y a eu à Gérone la semaine dernière. Donc oui, pour l'instant, on est en 9 sur 9. C'est parfait. L'an dernier, on se rappelle qu'il nous avait fallu 9 points pour qu'on se qualifie en 16e de finale. Mais avec un début tonitruant comme ça, avec que des victoires, on ne peut pas s'empêcher d'aller chercher la première place du groupe, qui nous éviterait un tour en 16e de finale, qui, on le sait, à la Real, et souvent, et même presque toujours, ponctué par une défaite. D'ailleurs, ça, tu aimes bien nous le rappeler.
Totalement.
Avec une phase retour où on reçoit deux fois et on se déplace qu'une seule fois à l'Omonia Nicosie, c'est donc la phase normalement la plus facile, donc quand même avec une réception de Manchester United qui, bon, là risque d'être compliqué, mais on sait que eux en championnat pour l'instant, c'est pas ça, ils connaissent une crise, ils se sont fait peur contre l'Omonia Nicosie, donc à domicile dans le chaudron d'Anoeta, ça peut être, on peut au moins ramener un point. Et après, contre le Sheriff Tiraspol, à domicile aussi, quand on voit la bonne performance qu'on a fait et on sait qu'on aura récupéré du monde entre-temps, on l'a vu hier, c'était pas vraiment très dangereux. Il y a moyen aussi d'aller chercher une victoire. Et après, bon, l'Omonia Nicosie, c'est l'équipe la plus faible du groupe. C'est celle où on ne s'attendait pas à grand-chose. Et donc, franchement, chez eux, là-bas, c'est une victoire impérative. Et sur cette phase retour, on ne peut pas se permettre de faiblir. Parce que oui, il faut garder en ligne de mire cette première place de groupe qui nous permettrait d'accéder à un huitième de finale, qui déjà nous avancerait bien dans un potentiel beau parcours en Ligue Europa.
Ouais, ben justement, c'est ce que tu disais. Je peux me permettre de te relancer un peu différemment, Sacha, mais est-ce que toi, tu vois la Real un peu comme le disait Lucas, ben voilà, assurer cette première place et en même temps continuer de jouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire continuer d'assurer en Liga, parce que c'est vrai que là, pour le moment, il y a une grosse partie du travail qui a été fait, 9 points. Il faut 4 victoires en théorie pour se qualifier. Donc, est-ce que toi, tu vois la Real en même temps, en plus de cette Europa League, continuer on va dire, à jouer sur le tableau de la Liga assez correctement?
Oui, je pense que c'est un effectif qui a de quoi faire. C'est assez impressionnant parce que quand on voit toutes les blessures qu'il y a eu, alors on pense bien sûr aux très, très grosses absences comme Sadik, maintenant Oyarzabal qui revient, et ça, je pense que toute l'Espagne du foot l'attend. Mais bon, il va devoir se remettre en forme, et donc ça, je pense que le break du mondial sera important pour lui. Il va y avoir aussi, comme tu l'as très bien dit, toute cette phase retour, mais les points pris ne sont plus à prendre. Et on a vu dans tous ces matchs que la Real Sociedad était dans son groupe l'équipe la plus forte. Je veux dire, le match à Old Trafford était très bien. C'était en plus d'un succès historique, vraiment une victoire, comment dire, assez impressionnante. Les deux autres matchs contre l'Omonia et contre le Sheriff, bon, ils ont été rondement menés. C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué là, ce jeudi dernier, mais au final, en 10 minutes, la décision a été faite. Et quand on voit ce que fait Manchester de l'autre côté, je pense que la première place est tout à fait jouable, surtout qu'en plus, ce sera le dernier match de cette phase de poule. Ce sera vraiment un match de gala. Et comme l'a dit Lucas, il y aura vraiment cet aspect un peu chaudron et fête au niveau d'Anoeta. Moi, je pense que voilà, le travail d'Imanol est très impressionnant. On sent un groupe qui est très uni, qui sait vers où il avance et qui est fort aussi de toutes ces dernières saisons. À chaque fois, en jouant les premiers rôles, il y a beaucoup d'expérience. On sent que les joueurs savent ce qu'ils sont en train de faire, savent aussi gérer leurs efforts. Après, le mois d'octobre, et c'est pour tout le monde pareil, c'est un mois où tout le monde va jouer tous les 3 jours. Il ne faudra pas que de nouvelles blessures se rajoutent dans cet effectif. Mais oui, moi, je pense qu'ils peuvent jouer sur tous les tableaux et arriver au moment du break de la Coupe du Monde en étant premier de leur groupe de Ligue Europa et en étant bien placé en Liga, c'est-à-dire dans le top, allez, dans le top 6, dans le top 7 maximum. Mais voilà, pareil aussi, Lucas l'a très bien dit, la nécessité absolue d'être premier, ça vaut aussi pour Villarreal et pour le Real Betis. S'éviter ce tour de play-off, surtout contre un reversé de Ligue des Champions. On sait qu'il y a des groupes de Ligue des Champions avec des équipes qui seront assez fortes dès ce premier tour à élimination directe. Donc voilà, en plus avec la Copa qui va se rajouter en janvier, si tu peux t'éviter une nouvelle double confrontation, c'est pas plus mal.
Ouais, complètement. Et puis en plus, c'est vrai que tu parlais du Betis qui tu faisais référence récemment, qui Betis Paris qui a pris 9 points sur 9, et puis Villarreal aussi, d'ailleurs, 9 points sur 9 en Conference League. Et puis, bah, je vais passer avec toi justement, Cyril, sur ce point après avoir parlé un peu de la Real, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une performance qui a fait un peu de bruit hein, jeudi soir. C'est évidemment le triplé de Morales contre l'Austria Vienne. Est-ce que toi, tu plutôt convaincant, on va dire, ces débuts avec le sous-marin jaune. Et puis voilà, rapidement, si tu veux dire quelques mots aussi sur ce début de parcours en Conference League, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu tout ça.
Morales, convaincant, oui. Alors là, en plus, il est dans son jardin parce que c'est
Ouais.
son stade, la stade américain. Convaincant, oui, mais je dirais ce qu'il y a, c'est que dans l'esprit d'Emery, et je crois que ce sera le cas toute la saison, il ne sera pas utilisé autrement que comme un super sub. Je le crois vraiment, et je pense que ce hat-trick ne va pas changer grand-chose à ça. C'est un joueur, je pense, qui a vocation à rentrer sur. Bon, là, il est rentré à la mi-temps jeudi soir, mais qui a pas vocation, même en Liga, et encore plus même en Liga, à rentrer autrement que sur 15 ou 20 dernières minutes pour profiter des espaces sur des matchs qui un petit peu compliqués, tout ça. Je pense que dans l'esprit d'Emery, il n'arrive qu'en troisième position dans la hiérarchie. De ce côté de l'attaque, derrière Danjuma qui revient doucement, et même derrière Jackson qui est vraiment le fétiche d'Emery, ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que c'est vraiment un joueur qui apporte énormément, même si c'est vrai que devant le but ça se traduit pas. Donc Morales, oui, non, c'est vraiment très convaincant en Conference League avec Baena, toute compétition confondue, c'est notre meilleur buteur cette saison. Mais voilà, je pense que non, ça, il a pas vocation à être plus que ça cette saison avec Emery. Ce début de Conference League, oui, il est parfait. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont, il y aurait à redire, mais bon, après c'est vrai que les compositions sont quand même, on a presque deux équipes, c'est même pas presque, on a deux équipes différentes en Liga et en Conference League. Et l'équipe de Conference League, elle apporte pas vraiment des grandes garanties défensives. Là, ça passe parce que c'est vrai que le niveau, il faut quand même le reconnaître, est quand même assez faiblard. Et bon, ça finit toujours par passer, d'autant que tu profites après du niveau de la technicité des mecs devant, comme Baena, comme Chukwueze, tout ça, donc pour faire la différence. Donc, ouais, un peu comme pour la Real, c'est l'objectif, c'est le plus tôt possible, et si possible même dès jeudi prochain, à Vienne, d'aller chercher les 3 points et de verrouiller la première place du groupe pour s'éviter là aussi un tour supplémentaire et ne revenir en Europe qu'au mois de mars. Mais donc pour l'instant, bah, contrairement à ce qui se passe en Liga depuis 3 matchs, là ça tourne très très bien. Ouais.
Ouais, c'est une configuration également avec les 9 points sur les, on va dire les 12 nécessaires pour passer à la qualification. C'est vrai que tu parlais de la dynamique en Liga, on va y revenir juste après parce que effectivement il y a quelques éléments à évoquer et peut-être qu'ils contrastent un peu plus. C'est vrai, tu le disais avec ce parcours européen qui est excellent comme tu le disais, mais c'est vrai que comparé à la Liga, c'est un niveau évidemment bien bien différent. On va y revenir juste après. Et d'abord, on va juste revenir sur un petit point par rapport à la Real Sociedad. C'est évidemment, bon, Sacha, on parlait tout à l'heure, c'est le retour de Yarzabal qui se précise, mais récemment il y a quand même une rumeur. Une rumeur plus qu'une rumeur, il y a eu beaucoup d'informations tout autour de Zubimendi qui était notamment envoyé du côté du Barça. Finalement, on parlerait d'une prolongation qui serait, enfin, qui est imminente parce que le président lui-même l'a confirmé. Donc, avant de te passer la parole sur ça, Sacha, je vais d'abord t'interroger, Lucas, que toi, du coup, tu pourrais faire un petit point, on va dire, sur cette situation du cas Zubimendi et même, voilà, peut-être repréciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément un peu l'importance qu'il a au sein de cette Real Sociedad et pour Emmanuel Alguacil.
Bah alors pour résumer cette situation, moi, elle est plutôt simple, hein. Le Barça, voilà, a fait plusieurs appels de phare pour Martin Subimendi. Ils le veulent en remplaçant de Sergio Busquets, qui sera en direction de la MLS au prochain mercato d'été. Donc Martin Subimendi, avant sa prolongation, c'est contrat jusqu'en 2025 avec une clause à 60 millions d'euros. Et donc là, la prolongation qui risque d'arriver, enfin, qui va arriver, c'est une prolongation jusqu'en 2027. Et là aussi, avec une clause d'achat, une clause de libération, pardon, à 60 millions d'euros. Donc, on avait entendu parler d'une clause de libération entre 60 et 90 millions d'euros. Et 90 millions d'euros, ça nous aurait peut-être plus arrangé, parce que donc, là, c'est là où je réponds à ta deuxième question, c'est que Martin Tchoubimendi, c'est le milieu défensif de la Real, c'est le milieu de la Real, il est vraiment exceptionnel, il rayonne depuis, bon, maintenant, on a la chance de le voir depuis 2-3 saisons, il a totalement éclipsé Sheri Darramendi, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Défensivement, il est plutôt fiable. Enfin, il est très très fiable. Il est très très actif, très énergique. Et offensivement, bon, il distribue des caviars à chaque but de la Real. Enfin, très très régulièrement, on voit des tweets. Ah ouais, encore la passe de Martin Tchoubimendi. Donc, c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. Emmanuel Alguacil l'aime beaucoup. Les fans l'aiment beaucoup parce que c'est un joueur qui a la Real. Depuis qu'il est tout petit, il encense toujours la Real Sociedad. Il avait même déclaré à la télévision que le journaliste lui avait demandé qu'est-ce qu'il pensait de l'intérêt de Xavi et du Barça sur lui. Il disait, bon, peut-être, d'accord, mais moi, pour l'instant, il n'y a que la Real. Je me sens très, très bien à la Real et j'ai envie de jouer pour la Real. Donc, c'est un joueur qui aime beaucoup son club, que le club aime beaucoup, que les supporters adorent. C'est un des joueurs qui est le plus aimé dans la communauté de la Real. Et c'est un joueur qui correspond parfaitement à l'ADN du Barça. S'il y avait un club qui devait le recruter, ce serait le Barça. Même si nous, bon, on aimerait le garder jusqu'à sa retraite, tellement ce joueur est fort. Il a marqué contre Girona le week-end dernier. Il est vraiment excellent, plutôt fiable. Il ne se blesse pas souvent. Quand on voit ses collègues du milieu qui ont plutôt tendance à se blesser, lui, c'est très rare qu'il se blesse. Et non, c'est vraiment un très, très bon joueur. Et c'est pour ça que le Barça, voilà, veut le recruter.
Ben complètement. Puis d'ailleurs, je me permets, du coup, Sacha, de te poser peut-être la question un peu différemment pour compléter ce que disait Lucas. Parce que c'est vrai que, est-ce que toi, tu voyais en ce midi, pareil, un joueur, on va dire, peut-être idéal pour entre guillemets, remplacer Busquets, hein, même si c'est vrai que c'est pas non plus exactement les mêmes joueurs. Mais voilà, au vu de l'importance qu'il a du côté de la Real Sociedad, comme le disait très bien Lucas et comme il l'a très bien expliqué, est-ce que voilà, toi, tu aurais trouvé que c'était en tout cas la cible idéale pour le Barça?
C'est sûr que c'est celui qui est présenté comme. De toute façon, j'en parlais hier avec Espacio Tiempo, qui est d'ailleurs aussi passé souvent dans les podcasts pour en parler du Barça, ça me permet de le saluer. Pour moi, Busquets, c'est un joueur unique, avec un profil unique, un jeu unique. Mais aujourd'hui, bon, il a besoin de, enfin, il est plus capable de répondre à ses standards. Il faut le remplacer. Je pense que lui aussi, il est vraiment sur la fin. Il a envie d'aller aux États-Unis. Voilà. Il avait déclaré il n'y a pas si longtemps que si la Coupe du Monde n'avait pas eu lieu en novembre, il serait peut-être même déjà parti du club. Voilà, je pense qu'il a fait son temps et oui, en Liga, quand on regarde au niveau de ce poste de numéro 6, Zubimendi apparaît comme le joueur idoine pour le remplacer. C'est pas exactement le même jeu forcément, mais voilà, c'est un joueur qui est très habile avec le ballon. Il est très bon pour relancer dans le contre-pressing. Il est toujours là, il arrive. Il a cette faculté, disons, moi, ce qui me surprend le plus et ce qui m'émerveillait chez le jeune Busquets, c'était cette faculté, en fait, dès qu'il est entouré de 2-3 joueurs sur une phase de contre-pressing adverse, il peut se défaire de cette pression et vraiment aérer le jeu, étirer un maximum et donc contrecarrer tous les plans de l'équipe adverse. Et c'est ce facteur-là qui manque, je trouve, au Barça, notamment dans les gros matchs. Et c'est, à mon sens, sa qualité première. Maintenant, comme l'a dit Lucas, c'est un pur produit de la Real. Il est maintenant sous le feu des projecteurs. Et je trouve ça bien aussi, quelque part, pour lui de prolonger du côté de Donostia, parce qu'il est dans son club, il est dans un club qui a beaucoup d'ambition. Il a envie, je pense, aussi de continuer à gagner des choses avec son club. Il a gagné une Copa. Peut-être qu'il rêve de rééditer cet exploit, peut-être qu'il rêve aussi de rentrer dans l'histoire en pourquoi pas réalisant une épopée européenne. On a vu le Villarreal gagner la Ligue Europa il y a 2 ans. cette Real Sociedad, honnêtement, elle a un effectif qui se rapproche de celui qu'avait le Villarreal. Donc, pourquoi pas aussi rêver d'un titre européen. Je trouve qu'en prolongeant, il donne beaucoup de sécurité et d'air à son club, mais il ne ferme pas non plus la porte au Barça, parce que la grande quinte, c'était de voir sa clause libératoire augmenter. Au final, elle reste à 60 millions, ce qui, selon moi, reste une clause abordable pour un joueur de ce niveau, et surtout s'il est la priorité absolue à ce poste. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il prend le temps vraiment de progresser, de grandir avec son club, tout en ne fermant pas la porte au club qui serait enchanté de l'avoir dès l'été prochain en Catalogne, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est un joueur qui donne beaucoup de plaisir et puis on le suit avec beaucoup d'intérêt.
Ben complètement, voilà, c'est comme vous l'avez dit, un joueur avec beaucoup de qualité et c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui, depuis maintenant plusieurs saisons, commence vraiment à faire parler de lui en Espagne et même en Europe, du coup, comme on le disait. Et donc, voilà, en tout cas, ce petit point sur ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Et puis, je me permets, du coup, avant qu'on passe au match en lui-même, de revenir un peu sur ce que Cyril évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la dynamique en Liga avec Villarreal, parce que c'est vrai qu'on a peut-être l'impression que le club marque le pas légèrement. Il y a eu, voilà, une dynamique un peu plus compliquée parce que ça a commencé avec la défaite contre le Betis maintenant il y a à peu près 4 semaines, c'était un peu avant la trêve, puis ce match ensuite contre Séville et là ce match aussi contre Cadiz en retour de trêve. Toi c'est vrai que Cyril tu avais parlé un peu sur Twitter de manque de réalisme et voilà de manque en tout cas de précision face au cage. Est-ce que toi tu t'inquiètes en tout cas de cette dynamique, on va dire, un peu plus perturbante, sachant qu'il y a quand même un calendrier qui arrive qui est assez difficile pour Villarreal jusqu'au mondial. Donc est-ce que cette dynamique t'inquiète particulièrement ou tu penses que tu vois le club en tout cas capable de relever la tête assez rapidement et pourquoi pas même dès ce week-end à Anoeta?
Sur le long terme, pas trop d'inquiétude. Après, là oui, pour revenir sur le mois d'octobre. Un petit peu quand même, parce que malheureusement on voit que cette mauvaise série elle est corrélée avec la blessure de Gerrard et les statistiques sont cruelles, c'est que sans lui la capacité à marquer est largement diminuée, donc malheureusement on en sera privé encore jusqu'à fin octobre. Donc, en son absence, malheureusement, le jeu continue on continue de produire. Il n'y a pas de souci, ça tourne bien, ça joue bien. On a probablement le meilleur Villarreal de l'ère Emery dans ce début de saison. Ça change pas. Mais malheureusement, on voit que depuis 3 matchs, en termes d'efficacité, c'est terrible, quoi. C'est, je dirais, la grande différence par rapport à l'an passé où on pouvait avoir des matchs des fois complètement où on était totalement absent, où il y avait vraiment on pouvait sentir un manque d'implication, d'envie, peut-être aussi de la fatigue parce que la Champions League était très énergivore. Cette saison, c'est même pas le cas, on peut même pas leur reprocher ça. Là, le match à Cadiz, on rentre parfaitement dedans, il y a une très belle première demi-heure, des grosses occasions, sauf que ça passe pas, sauf que ça finit par cogiter. En fin de match, ça aurait même pu coûter très très cher. Ça pouvait même se finir en défaite, comme l'année dernière. Donc là, malheureusement, je dirais qu'à moins de retrouver cette efficacité, je dirais que c'est vraiment psychologique. Il y a une difficulté à se libérer, peut-être plus sur des matchs où Villarreal est annoncé comme favori, comme c'était le cas face à Séville, comme c'était le cas à Cadiz. Ce sera peut-être moins le cas à Anoeta, on sera peut-être plus outsider, donc je crains peut-être moins ce genre de match-là. Malgré tout, là, la dynamique, elle est pas en notre faveur, et j'ai peur que là, la période jusqu'à la Coupe du Monde soit très très compliquée, surtout sans Gerrard. Donc voilà, c'est un petit peu l'inquiétude pour ce mois d'octobre.
Ouais, c'est vrai que la blessure de Gerrard, on y reviendra peut-être un peu après, mais on a beaucoup parlé aussi récemment et dans l'actualité, parce que c'est vrai que du coup c'est pas aussi, enfin tu vois, ça ne se rétablit pas aussi bien que ce qu'on aurait espéré. Sacha, je te passe la parole pour compléter un peu ce que disait Cyril rapidement. Est-ce que toi du coup tu partages un peu ce point de vue d'une dynamique, on va dire du moins sur le court terme et sur les prochaines semaines, qui te paraît un peu inquiétante ou pas trop au contraire justement?
Ben, je pense que Emery, ça nous permet de le saluer aussi, avait raison. Et c'est vrai qu'il y a des matchs qu'il faut gagner et qui n'ont pas été gagnés en ce début de saison. On pense au match face au Real Betis. C'est peut-être aussi ben, tous ces points qui se sont échappés qui donnent cette impression. Maintenant, je trouve qu'ils sont quand même encore dans le bon wagon. Il y a pas mal de clubs qui ont connu des faux pas. Et puis, on en parlait lors du dernier podcast où on a traité de Villarreal. C'est quand même une équipe qui a fait le tour préliminaire de Ligue Europa Conférence. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs dans les pattes. Et forcément, ça a un impact sur la Liga. Alors oui, je sais, il y a quand même une équipe qui est bien différente les jeudis soirs de celle des week-ends. Avec voilà, pas mal de rotations et ça tourne bien. L'effectif est quand même assez intéressant aussi, mais je pense qu'il y a du mal parce que quand tu as un adversaire comme Cadiz, par exemple, comme en parlait Cyril juste avant, qui joue en plus sa survie, qui n'a qu'un match par semaine depuis le début de championnat, ben, ils sont beaucoup plus frais, ils arrivent à gérer un peu mieux les efforts et puis ils ont beaucoup moins la pression. Après, c'est vrai qu'il y a un mois d'octobre, là aussi, qui sera terrible, hein, avec beaucoup, beaucoup de gros matchs. Aussi, un match face au Barça en fin de mois, si je ne me trompe pas, et d'ailleurs qui aura lieu au Camp Nou, la revanche de l'année dernière, mon cher Cyril. Mais non, moi, je ne suis pas vraiment inquiet. Je pense qu'il y a des équipes qui ont aussi des dynamiques un peu en dents de scie. Ils sont dans le bon wagon, voilà. Je pense que le match de ce week-end sera quand même assez important. Le perdre ne serait pas si grave que ça. Maintenant, le gagner donnerait une vraie bouffée d'oxygène. Et non, voilà, je pense que c'est surtout la répétition des matchs qui ben, forcément pèse sur les organismes et fait qu'il y a de temps en temps des petits faux pas. Mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas vraiment de grosses défaites, je ne suis pas inquiet. J'étais beaucoup plus inquiet l'année dernière. Quand il y a eu ces matchs qui étaient totalement loupés contre Elche, contre Cadiz aussi, encore une fois, au début d'année 2022, plutôt que là, où là, vraiment, je pense qu'il y a juste un trop-plein de matchs et le jeu produit n'est pas aussi alarmant qu'à une certaine période en Liga l'année dernière où il y avait une vraie différence entre ce qui était produit en Ligue des Champions et ce qui était produit en championnat.
D'accord, donc pas d'inquiétude particulière pour le moment, parce que c'est vrai que mine de rien, oui, Villarreal reste quand même plutôt bien classé, et le retard en tout cas sur le top 4 est pour le moment assez minime, hein, que de 3 points avant cette journée. C'est vrai qu'il y a aussi Valence qui a un match en plus du coup qui est pour le moment cinquième, mais donc oui, pas d'inquiétude particulière pour le moment. Et puis donc bah, je passe un peu aux absents assez rapidement. Je viens d'abord avec toi, Lucas, du coup, pour ce point. Est-ce que voilà, tu peux aussi nous dire voilà, les éventuels absents et retours aussi de blessures éventuellement qui y a pour la Real Sociedad, sachant qu'on parlait de Oyarzabal tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi d'autres joueurs qu'on peut noter pour ce match?
Ah oui, bon, comme tu l'as dit, il y a Mikel Oyarzabal. Bon, il commence à se réentraîner avec le groupe. Hein. On l'a vu quand le club a communiqué là-dessus, l'effervescence qu'il y a eu dans la communauté de la Real Sociedad. Hein. C'est vraiment un très, très bon retour. On espère qu'il sera là. Bon, on envisage peut-être après la Coupe du Monde. Ensuite, Sacha avait parlé tout à l'heure de Oumar Sadik, la recrue venue d'Almeria. Il avait coûté 20 millions, qui s'est fait des ligaments croisés, ou que lui, dans les podcasts cette saison, je risque souvent de le dire dans les blessés. Ensuite, il y a Andoni Gorosavel, qui s'est blessé à la cheville, une petite entorse. Ensuite, il y a Mohamed Ali Chow qui s'est blessé durant la trêve avec l'équipe de France moins de 20, ou moins de 23, enfin l'équipe de France Espoir. De plus, il y a encore Igor Subeldia, un autre défenseur qui s'est blessé. Il y a aussi Robin Lenormand qui est blessé depuis maintenant un peu moins d'un mois, qui devrait pas tarder à revenir. On espère que lui pourra revenir avant la trêve. Et ensuite, il y a encore la blessure d'Ander Barrenechea qui avait replongé après sa grave blessure de l'an passé. Et donc, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à assister à des retours. Et voilà, on garde à peu près le même effectif que sur les derniers matchs.
Ouais, donc une infirmerie toujours un peu chargée et bien occupée comme tu le décrivais en tout cas. Et puis, bah Cyril, je passe avec toi du coup pour Villarreal. C'est vrai qu'on parlait de Gérard Moreno du coup, qui sera pas là évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs en tout cas qui sont absents ou même qui reviennent de blessure pour cette rencontre?
Alors, du côté des absents, il y a Foyt, évidemment, qui est absent depuis fin août. On a eu un peu peur d'ailleurs hier parce qu'il y a une rumeur qui est partie d'Argentine, enfin, une rumeur, une info qui est sortie d'Argentine, qui est partie d'Argentine, qui l'annonçait en légère rechute apparemment. Et bon, finalement, ça a été infirmé par le club. La convalescence suit son cours normal et il devrait revenir fin octobre, début novembre. On a encore Trigueros au milieu et Reina, Pepe Reina, le deuxième gardien, qui eux ont repris un rythme d'entraînement a priori normal, mais qui pourrait être sur la feuille de match dimanche, mais dont on sait pas trop encore l'état de forme. Donc voilà, Trigueros et Reina qui pourraient être sur la feuille de match dimanche. Et au niveau des retours, il y en a un qui est très 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 important, qui est revenu, enfin qui était sur la feuille de match jeudi contre l'Austria en Conference League, c'est Alberto Moreno. Alberto Moreno qui s'est fait quand même deux fois les croisés en 2 ans, le pauvre. C'est vraiment un gros guignard, un gros malchanceux. Et la dernière fois, c'était en mars à Osasuna, et donc il revient de 7 mois d'absence. C'est terrible parce que c'est un joueur qui était sur une super dynamique là, la saison dernière. Il en était à 3 buts et 2 passes décisives. Il faisait une super saison, peut-être la meilleure de sa carrière. Un peu à la base, c'est un arrière-gauche, mais repositionné presque comme ailier en fait, par Emery. Et un joueur qui apporte énormément, sur et en dehors du terrain, parce que c'est aussi un super ambianceur, un vrai joueur de vestiaire. Donc vraiment, son retour est très, très attendu. Et bon, pareil, il sera sur la feuille de match dimanche. Et c'est vraiment un joueur dont on attend le retour de façon. On est très 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 content de le voir revenir pour plein de raisons.
Très bien, bah, tiens, un point aussi assez détaillé là sur l'infirmerie, les retours. Et puis bah, d'ailleurs, je reste avec toi si tu veux bien, Cyril, pour parler du match rapidement. Voilà, comment toi tu vois cette rencontre qui se profile donc face à la Real ce dimanche? Et puis pareil, comme on a l'habitude de le demander, si jamais tu voyais un joueur ou un élément capable de la faire basculer en faveur de son équipe ou en faveur de la Real d'ailleurs, je te laisse nous dire ça.
S'il y a un facteur qui peut peut-être jouer, c'est peut-être le facteur Anoeta, justement, parce que c'est un stade qui réussit très très bien à Villarreal. C'est le stade dans lequel Villarreal a le plus gagné depuis le premier match entre les deux équipes là-bas en 99. J'ai sorti la stat, on en est à 10 victoires, 6 nuls et 3 défaites là-bas. La dernière date de 2017, de août 2017. Donc on peut espérer que ça se poursuive. Après, écoutez, ça dépend beaucoup aussi enfin, de cette efficacité retrouvée. J'en reviens encore à ça, mais s'il y a peut-être un joueur qui. Le facteur X, celui qui peut faire peut-être la différence, peut-être c'est Danjuma. On espère vraiment qu'il revient doucement, doucement, doucement depuis 3 semaines, un mois, à coup de remplacement, de sortie de banc. Là, il était titulaire contre l'Austria. Jeudi soir, il a marqué son premier but d'ailleurs depuis le mois d'avril. Donc il est loin d'être encore à son meilleur niveau, bien loin. Il y a encore des grosses imperfections techniques et tout ça. Mais s'il y a un joueur qui lui peut éventuellement ne pas en avoir besoin de trop pour la mettre au fond, ce serait bien lui. Donc vraiment, c'est beaucoup d'espoir placé en lui. Il sera probablement titulaire d'ailleurs à la pointe de l'attaque, je pense, avec Lo Celso de l'autre côté. Parce que c'est le grand classique d'Emery. Donc voilà, peut-être à la fois le facteur Anoeta, qui on l'espère va encore jouer, et peut-être Danjuma.
Ok, bah c'est parfait, c'est noté pour Danjuma et puis le facteur Anoeta, comme tu le dis, c'est vrai que c'est une bonne dynamique là-bas. Et puis bah, du coup, Lucas, je te laisse bah, pareil, donner un peu ton opinion sur ce match qui se présente donc face à Villarreal, comme je le disais. Et puis pareil, bah, si tu avais un élément à citer pour faire changer cette rencontre, tu peux nous donner ça aussi.
Bah alors, pour ce match, je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit je dois appréhender ce match, parce que vraiment, on sort d'une performance plutôt correcte chez le Sheriff Tiraspol. mais on sort aussi d'une performance plutôt contrastée en Liga à Girona, avec une victoire 5-3, on marque 5 buts. Voilà, c'est arrivé. Je me souvenais pas d'un aussi grand nombre de buts et dans un même match de la Real. Hein, on connaît plutôt les matchs de la Real où ça se joue à 1-0. Et voilà, aussi, on a pris 3 buts. Donc, ça, c'est quelque chose aussi de plutôt inquiétant. Mais ça va être un match très ouvert. Bon, on connaît Villarreal, hein, c'est toujours cette équipe chiante à jouer par excellence. Hein, c'est vraiment une très bonne équipe. Mais bon, s'ils ont du mal un peu offensivement, et que nous, bon, offensivement, on est plutôt réaliste d'ailleurs. C'est un des bons points qu'a la Real cette saison. Moi, je pense que ça va être un bon match. Je ne saurais pas dire quel serait le score, ni même qui serait le vainqueur. Parce que voilà, tu as donné la stat des matchs à Noeta. L'an dernier, on se souvient de la victoire 3-1 à Noeta. Donc, c'était, oui, voilà, c'est Villarreal. C'est un match compliqué. Et après, s'il fallait donner un élément, un joueur qui pourrait tout faire exploser chez Villarreal, ce serait David Silva. Donc, El Mago qui est dans une forme étincelante, qui a marqué un but magnifique contre le Sheriff Tiraspol, qui est capable de passes lumineuses qui mettent toute la défense, qui met toute la défense dans le vent et qui place parfaitement l'attaquant. Donc, si je dois donner un joueur qui, ce week-end, pourrait faire, enfin, demain, ferait la différence contre Villarreal, ouais, ce serait David Silva.
Eh ben, c'est parfait. C'est vrai que David Silva, qui est sur, comme tu le disais très bien, une très grande forme en ce moment. Et d'ailleurs, sa forme coïncide toujours un peu avec évidemment les bons résultats, les très bons matchs de la Real Sociedad, surtout en ce moment, notamment en Europe. Et tu citais le cas. Et puis c'est vrai que le match, oui, la semaine dernière, aussi contre Girona, qui avait été vraiment un match très, très prolifique. Et puis, avant qu'on passe au pronostic, c'est là ce que tu rejoins un peu ce que nos deux invités, pardon, ont dit sur cette rencontre. Est-ce que tu la vois un peu dans la même manière, sachant que voilà. Comme Cyril et Lucas l'ont bien dit, c'est vrai que Villarreal a eu plutôt une bonne dynamique récemment à Anoeta. Donc voilà, est-ce que toi tu rejoins un peu ce qui a été dit sur ce match qui arrive?
Oui, puis je vais être très rapide. J'ai l'impression qu'on a quand même un super week-end de Liga avec de très très belles affiches. On a parlé déjà du Séville contre l'Athletic Club. Il y a un Getafe Real Madrid qui est toujours une belle rencontre. Dimanche soir, juste après, il y a un Barça-Celta. Là, on traite d'un Real Sociedad Villarreal. Donc, vraiment, il y a de très, très belles rencontres avec du jeu. Et c'est vrai que celle-là, en particulier, elle respire le football espagnol, quoi. On aime ce genre d'affiche quand on aime la Liga. Ces deux équipes qui, quand même, sont capables de jouer très, très bien au ballon. Le niveau technique, il est plus que présent. Voilà, il n'y a rien qu'à écouter les noms qui sont évoqués. On sait que ça va bien jouer et c'est toujours des matchs assez enlevé. Il va falloir voir un peu qui gagnera la bataille du milieu de terrain, parce que les joueurs de Villarreal sont très très bons dans ce domaine. Mais enfin, depuis le début de la saison, on voit aussi Mikel Merino, Zubimendi, comme on en a parlé, qui seront capables de répondre au milieu qui sera aligné par Unai Emery. Moi, c'est vrai que c'est un match très difficile à pronostiquer, parce que les deux équipes ont joué jeudi. La semaine dernière, ben voilà, comme on l'a dit, Villarreal s'est un peu planté contre Cadiz, mais c'est un double déplacement quand même pour eux. La Real Sociedad, comme l'a très bien dit Lucas, reste sur un festival offensif, mais a quand même eu de grosses turbulences au niveau de son arrière-garde. Donc, moi, je m'attends à un match qui sera enjoué. Je pense qu'on peut voir, pas mal de buts. Ça peut être vraiment intéressant, malgré le fait que Remiro soit un gardien qui réalise beaucoup de clean sheets et que Geronimo Rulli, jusqu'à il y a encore peu, était devant Ter Stegen en termes de matchs joués sans encaisser de but. Donc voilà, je pense que ça peut partir dans tous les sens. En tout cas, le jeu sera au rendez-vous et on a hâte d'être devant la télé, de se poser voilà, ce dimanche devant une telle rencontre.
Ben oui, comme tu le disais très bien, c'est une belle affiche du football espagnol, évidemment, avec deux très belles équipes. Et puis, ben, on va conclure du coup ce podcast avec évidemment la section des pronostics. Ben, je te demande d'abord le tien pour commencer, Sacha, si tu veux bien. Pour la neutralité, on va dire, est-ce que tu peux, voilà, donner ton pronostic pour cette rencontre?
Ouais, bah je vois bien un 2 partout. Deux très belles équipes, voilà, avec pourquoi pas une ouverture du score de Villarreal et une Real qui arrive à revenir dans le match. Donc voilà, un petit match nul, ça me semble le plus logique.
Un match nul donc. Lucas, ton côté, quel pronostic?
Sacha me l'a enlevé de la bouche, je voulais dire 2-2 aussi, pour éviter de me mouiller. Mais bon. On va essayer de changer ça. Et bon, allez, je vais dire, dans la lignée du dernier match de championnat, une victoire 3-2, voilà, festival de buts avec 5 buts. Et bon, voilà, une belle fête à Anoeta avec une belle victoire, une victoire de prestige contre Villarreal.
Très bien, quoi, une rencontre, ça paraît très prolifique aussi à nouveau. Et puis, bah, Cyril, du coup, ton pronostic de ton côté.
Ah bah alors moi, je vois pas forcément une rencontre très prolifique pour le
Ouais.
coup. Je pense qu'on va avoir un match très sympa. C'est souvent le cas entre les deux équipes, mais je vois peut-être aller à un partout, avec pour le coup, moi, plutôt une ouverture du score de la Real, comme l'an dernier, et peut-être une égalisation, même peut-être pourquoi pas en fin de match, avec un tour de magie de Chukwueze qui sortirait du banc. Bon, après, ne vous fiez surtout pas à ce que je vous raconte, parce que j'ai beaucoup de mal à expliquer sur mon équipe. Ouais, non, je pense qu'un match agréable, mais pas forcément beaucoup de buts. Je pense que, notamment du côté de la Real, ce qui s'est passé, j'ai vu la deuxième mi-temps contre Girona le dimanche dernier. Je pense que c'est plus un épiphénomène qu'autre chose. Je pense qu'on va revenir à du classique avec une très très bonne équipe et là aussi très difficile à jouer. Je ne vois pas énormément de buts. Peut-être, j'espère qu'on n'aura pas un 0-0, mais peut-être un partout. Ouais.
Un match nul partout, et puis du coup pour ma part je te rejoins pas mal sur ce point parce que voilà, un match nul semblerait un résultat cohérent au vu de tout ce qui a été dit, et même si c'est vrai que la Real marque beaucoup cette saison et encaisse peut-être plus, en tout cas Villarreal aussi a une défense très, très solide, hein, on l'a vu jusqu'à présent, une bonne attaque aussi, mais voilà, peut-être en tout cas un match qui sera équilibré à mon avis, et puis peut-être voilà, après un partout, 2-2, ce sont des scores qui me semblent assez probables, mais je partirai peut-être plus sur le blanc partout. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de ce bon numéro sur une belle affiche. On va dire cette 8e journée, une affiche qui voilà, joue beaucoup pour la qualification européenne, et puis surtout pour ce mois d'octobre qui va être décisif et très intense avant le mondial qui arrive maintenant dans un peu plus d'un mois, un peu moins d'un mois et demi même. Donc voilà, merci en tout cas à toi d'abord, Lucas, d'être venu pour nous parler de la Real Sociedad.
Merci, c'est toujours un plaisir de venir évoquer la Real. Bon match à tous dimanche.
Merci aussi, du coup, Cyril, aussi d'être venu nous parler de Villarreal, qu'on peut retrouver un rappel sur le compte Actu Villarreal également. Donc voilà, merci à toi, Cyril, d'être venu dans les podcasts pour cette rencontre.
Bien, merci à vous les gars. Bon week-end, et puis Endavant Via Real, bien sûr.
Évidemment, et puis ben, voilà, merci aussi à toi, Sacha, d'avoir pu compléter les pronostics, enfin les pronostics et puis les propos d'ailleurs de nos auditeurs et de nos invités, pardon, sur ce podcast.
C'était très agréable, c'est sûr que quand on est comme ça, l'intervenant neutre, on est en avant-première
Ouais.
dans le podcast. Et non, non, c'est toujours très intéressant d'écouter ben, ce qui se passe dans l'actualité des deux clubs. Voilà, beaucoup de plaisir. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, un week-end de fou en Liga avec pas mal de matchs très intéressants et on a hâte d'y être.
Voilà, exactement. Donc on espère que ce numéro vous aura plu. Et puis n'hésitez pas, si c'est le cas, à nous le faire savoir, à partager évidemment, à recommander ce podcast à d'autres personnes. Et puis voilà, en tout cas, on se dit en tout cas à très bientôt. Puis merci à tous d'avoir participé, d'avoir écouté. Et voilà, un très bon week-end de foot en Espagne qui nous attend. Et donc voilà, très bon week-end à tous et à très bientôt.